Je vais vous parler un peu de Daniel ce matin. Le livre de Daniel a beaucoup parlé à mon cœur ces derniers temps, ces dernières semaines. Et là, vous voyez Daniel à genoux, en train d'adorer le Seigneur. Et en arrière-plan, vous voyez Babylone, hein, parce que Daniel, il a vécu à Babylone. Mais il prie pas Babylone, il prie Jérusalem. Il se tourne vers Jérusalem, ses fenêtres sont ouvertes et il adore le Seigneur. Ouvrir les fenêtres à Babylone. Oui, parce que certains disent qu'aujourd'hui on est en dictature, peu importe où on se trouve. Parce que moi, mon bien-être ne dépend pas de ce que décident les autorités, on va le voir. Mon bien-être réside là-dedans. Quand j'ouvre les fenêtres de ma chambre et que je me tourne vers le Seigneur et que je prie. C'est là où se trouve la paix et la sécurité, c'est auprès de Dieu. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Entendez bien ceci, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit, il louait son Dieu, tout comme il le faisait auparavant. Intéressant, texte très intéressant, qui se situe dans un contexte assez particulier. D'abord, il faut savoir que Daniel, c'était un homme qui avait la capacité de représenter Dieu sur la terre. J'aime beaucoup Daniel dans ce qu'il est. Pas simplement dans les révélations qu'il a reçues, mais dans le témoignage qu'il avait dans sa vie de tous les jours. Et regardez, Daniel, là, ici, il est en train de progresser puissamment de la part de Dieu vers une position haute dans le gouvernement de Babylone. Il est en train de progresser. Il est en train d'être élevé par Dieu dans Babylone. Il est à la tête de 120 administrateurs du pays avec deux autres, hein, ils étaient 3 gouverneurs, plus 120 administrateurs. Et il se distingue un tel niveau de compétence, parce que c'était pas simplement un gars qui levait les mains vers Dieu, mais en plus c'était quelqu'un qui avait des compétences que Dieu lui avait données. De fidélité, de droiture, que Darius, le roi babylonien, pense même à l'élever à la plus haute position. C'est écrit dans Daniel chapitre 6, hein, ce que je vous dis. Il est prêt à l'élever à la plus haute position dans le royaume, après lui. C'est-à-dire qu'il est prêt à en faire son premier ministre. Il est prêt à en faire l'homme le plus élevé. Lui, le petit qui a été enlevé de Babylone dès son enfance et amené en captivité, lui qui au départ devait servir le vin du roi est à la porte de Matignon. Et il a sur cet homme, sur ce Daniel, un mandat clair qui est voulu par Dieu. Et vous savez, je pense que une des raisons qui nous lie et qui nous empêche de vivre pleinement notre foi, c'est que nous ne connaissons pas ou nous ne réalisons pas le mandat que Dieu a mis sur chacune de nos vies. Et Daniel en est conscient. Daniel, il sait qui il est en Dieu. Daniel, il connaît ses dons. Daniel connaît ses capacités. Voilà le contexte. Et forcément, j'y reviendrai après. Alors, sur quoi base sa capacité de gouverner, Daniel? Il base sur quoi? Regardez! 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu. Tout le socle, toute la fondation de sa vie, c'est 3 fois par jour, cet homme priait, il se mettait à genoux pour adorer et il louait le Seigneur. On va le voir que c'est ça qui tenait Daniel. C'est ça, c'est cet acte d'adoration qui tenait cet homme. Certes, il avait des capacités. Certes, il avait des dons. Certes, il avait reçu un appel de la part de Dieu. Certes, il avait une autorité que Dieu lui avait donnée. Mais ce qui tient tout ça, c'est 3 fois par jour, il priait et louait Dieu. Et je pense que Je ne sais pas si vous, vous êtes conscient de ça, mais Dieu nous appelle à gouverner avec lui par la prière. Parce que c'est dans la prière que se déroulent les choses de ce monde. C'est dans la prière que nous ferons bouger les choses. Ce qui ne veut pas dire, je n'ai rien contre ceux qui manifestent ouvertement. Je pense par exemple au CNEF, je pense par exemple au CDPH, ce mouvement protestant pour la dignité humaine, qui vont voir les gouvernements et qui réclament des choses. Je n'ai rien contre cela. Mais je dis que le premier socle, c'est la prière. Et si vous voulez gouverner avec Dieu, tout dépendra de votre vie de prière. Si vous voulez être dans une position de victoire, tout se déroule dans la prière. Et je n'ai pas peur de décrire en dessous, pas de prière, pas de gouvernance. Pas de prière, pas de capacité de gouverner. Alors vous allez me dire, c'est bien trop beau tout ça. C'est bien trop beau, Daniel est en train de devenir Premier ministre. Il est en capacité d'être élevé, il est en train d'avancer. Mais est-ce que vous croyez que Satan va laisser faire les choses? Non, les gouverneurs et les administrateurs vont essayer d'utiliser un stratagème pour couper cette capacité de gouverner. Vous savez que il y a bien quelque chose que Satan veut nous amener à faire, c'est abdiquer face à notre identité, face à notre autorité, face à ce que nous avons reçu de sa part. Et la première des choses qu'il va faire, c'est attaquer. Dès lors que quelqu'un prie, ça n'empêchera pas les attaques de l'ennemi. Dès lors que quelqu'un est en capacité d'avancer avec Dieu, ça n'empêchera pas Satan de chercher à mettre des bâtons dans les roues, comme son nom l'indique, c'est celui qui met des bâtons dans les roues. Il y a deux axes d'attaque là ici de l'ennemi. Le premier, c'est qu'ils vont commencer à chercher des défauts dans sa manière de gérer les affaires du pays. Donc ils vont chercher, est-ce qu'il fait défaut, est-ce qu'il vole, est-ce qu'il fait ceci, est-ce qu'il fait cela, est-ce qu'il a des arrangements, ne favorise-t-il pas les gens de son pays, etc., etc., etc. Ils ne vont rien trouver. Cet homme avait un tel pouvoir de représentation sur la terre que cet homme était droit, cet homme était juste, cet homme était fidèle. Tout ce que Dieu lui demandait, il le faisait. Et la deuxième axe d'attaque, c'est que là, il va toucher à sa vie de prière. Et que va-t-il faire? Eh bien, les gouverneurs vont se dire, cet homme, il discerne que c'est dans la chambre, il discerne que c'est dans la chambre que se passe la majeure partie de la capacité de gouverner de Daniel. Ils savent que c'est là, dans cet endroit, que ça bouge. Et que vont-ils faire? Alors forcément, Satan, lui, il veut limiter sa capacité de régner. Il veut que ce soit toujours Darius et que ce soit les lois sataniques qui dirigent le pays. Et que va-t-il faire donc? À travers ses gouverneurs, à travers ses administrateurs, ils vont aller le voir, le roi Darius, et ils vont lui dire, roi, on te propose quelque chose de sympa. Que dans les 30 jours qui arrivent, que tout homme, tout être vivant sur la terre n'adresse pas d'autre prière qu'à toi, ô grand roi. Forcément, ça fait mousser le roi. Oh, ça c'est une bonne idée. Je suis le roi de Babylone. Ça le fait mousser, ça élève son orgueil, etc., etc., etc. Et à travers cet acte, à travers ce décret qui va être écrit par Darius, Satan veut limiter la capacité de régner, de gouverner de Daniel par la prière. Et la première des choses que Satan cherche à faire, c'est d'attaquer ta capacité de prier. Parce que Satan sait que c'est là où ça bouge. Alors, la réaction de Daniel est très intéressante. Pourquoi? Parce que Daniel, il aurait pu dire, chez moi le gouverneur, hein. C'est moi le gouverneur. c'est moi. Et il sait quand même que c'est le petit protégé, le petit favori de Darius. Donc il aurait pu aller et se rendre dans le bureau de Darius et lui dire, roi, c'est pas juste ce que tu fais. Tu sais que moi, j'adore l'Éternel, etc., etc. Il ne fait rien. Aucune réaction d'ordre physique, aucune réaction d'ordre administratif. Que fait-il ? Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Rien n'a changé dans le comportement de Daniel. Aucun décret, aucune nouvelle, aucune action, aucune réaction de l'ennemi n'a fait bouger Daniel. Et vous savez, l'action principale se passe dans une petite chambre. Enfin, à mon avis, il avait une belle chambre quand même, hein, Daniel. Mais ça se passe dans une chambre, mais elle va avoir un impact au niveau national, on va le voir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du lieu où tu pries, du lieu où tu t'adresses à Dieu, il y a des grands mouvements qui se produisent à une échelle plus grande que ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans ta chambre, Jésus l'a dit, lorsque tu vas dans ta chambre, tu pries, ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous saisissez que si nous nous mettons à genoux, si nous cherchons Dieu, si nous déclarons qui est Dieu, si nous proclamons ses promesses, Dieu nous le rendra. Ça veut dire que même à l'endroit où tu te trouves, là je sais, pendant tout le mois de juillet, on a prié pour nos frères en Inde, dans les 30 chronos, je savais que lorsque je priais, lorsque je bénissais mes frères là-bas, lorsque je demandais la protection de Dieu, je savais que ça avait un impact là-bas. C'est-à-dire que, est-ce que vous saisissez que ça va bien au-delà de votre chambre, bien au-delà de ce que vous dites ? Souvent vous pensez, et nous pensons que nos prières ne sont insignifiantes, elles ne valent pas grand-chose, c'est pas vrai ? Alors qu'elles ont une portée qui va bien au-delà de notre chambre, bien au-delà de notre maison, bien au-delà de notre rue, bien au-delà de notre pays. À chaque fois que tu pries, Dieu te le rend. Alors il y a trois socles sur lesquels Daniel base sa vie de prière. Trois socles. Le premier. Ça, c'est parce que je suis passé de sheet à PowerPoint. Ça le fait à chaque fois. Un, il ne s'est pas laissé intimider ni endormir. La question est-ce que tu es endormi aujourd'hui dans ta vie de prière ? Tu réponds, mais c'est le temps de te réveiller. Est-ce que tu t'es laissé intimider par des situations, par des circonstances qui t'ont fait taire aujourd'hui ? Combien de fois, moi, je me suis fait piéger par l'intimidation ? Combien de fois, à cause d'une mauvaise nouvelle, je me suis mis à dire « Oh, ça ne vaut même plus le coup de prier. » Le deuxième socle, c'est qu'il prie vers Jérusalem. Je l'ai bien dit tout à l'heure, on voit en arrière-plan Babylone, mais derrière, il prie vers Jérusalem, il se tourne vers Jérusalem. C'est le lieu où il a été enlevé quand il était enfant. Il montre qu'il n'est pas esclave du système babylonien. Il montre qu'il n'est pas lié par le décret de Darius. Il montre que ce ne sont pas les administrateurs qui vont gouverner. Ce ne sont pas les gouverneurs qui sont contre lui qui vont le limiter. Ce n'est pas Satan qui se cache derrière ces hommes, mais il dit « Moi, je vis à Babylone, mais mes yeux sont fixés sur l'Éternel. » Et combien de fois nous laissons l'environnement, notre propre environnement, nous envahir et nous lier dans nos prières. Nous en oublions même les promesses de Dieu pour notre vie. Nous en oublions même ce qu'il dit dans sa parole. Combien de fois ? Alors, avoir un moment de doute, ça arrive. Moi, je sais qu'au mois de juillet, j'ai entendu une nouvelle qui m'inquiétait beaucoup. Les deux, trois premiers jours, j'étais alors inquiet. Et puis au bout de trois jours, je dis, je proclame la paix. Je proclame la bénédiction. Je proclame, Seigneur. Et le résultat de cette prière que Dieu a entendue et qu'il a agi. La troisième, c'est que il y a une prière d'une grande... Oui, il est écrit dans Galates 4, 26, « La Jérusalem d'en haut est libre. » Moi, je regarde la Jérusalem d'en haut. Moi, je regarde le trône de Dieu. Parce que je suis libre lorsque je suis là-haut, dans les lieux célestes. La troisième, c'est que sa prière fut d'une grande intensité. Je voudrais juste vous interpeller là-dessus. Priez tous les jours, trois fois par jour, à genoux. Il faut de la persévérance. Il faut de la ténacité. Il faut en vouloir. Être capable de prier trois fois par jour comme il le fait Daniel, moi je dis que c'est un homme consacré. C'est un homme qui cherche avant tout Dieu. On a chanté tout à l'heure ce chant. Tu es tout pour moi, ô mon roi. Tu es celui en qui je veux diriger mes pensées, mon cœur, etc. Mais que ça sorte en sortant d'ici, que ça puisse rester dans notre cœur. Trois fois par jour sur ses genoux. Et que fait-il, à votre avis ? Il ne s'apitoie pas. Ah, je sais, on peut s'apitoyer. C'est de la compassion pour ceux qui souffrent. Vous l'entendez bien. Mais que fait-il ? Il lance des prières victorieuses. Il loue son Dieu. Il proclame des chants d'adoration. Je l'imagine en train d'ouvrir les psaumes et proclamer les chants de David, les psaumes d'Asaph, etc. Il proclame la parole de Dieu. Et vous savez, si notre vie de prière se limite à nos pleurs, si notre vie de prière se limite à notre incrédulité, si notre vie de prière se limite à « Mais que vais-je faire, Seigneur ?» Mais tu vois tout ce qui tombe sur moi. Non, grandissons dans cette vie de prière. Grandissons et commençons à proclamer la parole de Dieu. Mon pasteur, mais qui ? Je me souviens, c'était une étude biblique chez lui. J'étais tout jeune converti. Il nous apprenait. Il a dit, un jour il a enseigné, il a dit, vos prières, basez-les sur la Bible. Ouvrez la Bible et proclamez la Bible. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Que se passe-t-il donc lorsque... Alors, vous savez, vous connaissez l'histoire. Notre ami Daniel va se faire avoir. Forcément, on va le surprendre en train de prier. Et puis, dans le décret, il est écrit « Quiconque ira... » prier un autre Dieu que le roi, finira dans la fosse aux lions. Vous connaissez cette histoire, je pense, tous. Donc Daniel termine dans la fosse aux lions. Franchement, Darius le fait à contre-cœur. On le voit bien en lisant le texte. Il dit, oh là, mon Daniel, puisse l'Éternel t'aider, te secourir, etc., etc. Il n'endort pas de la nuit, le pauvre. Il culpabilise à fond. Ce sera bien fait pour lui. Il n'avait pas écouté la voix de l'ennemi. Et puis, il arrive le matin, il se lave pas, il mange pas, il court tout de suite, et là, qu'entend-il? Daniel qui sort. Daniel! Et puis, Daniel dit, l'Éternel, un ange est venu, et l'Éternel m'a délivré, et les lions ne m'ont pas touché. Que se passe-t-il donc quand j'ouvre les fenêtres de Babylone? Quand je me mets à prier, à chercher Dieu, nous activons le mouvement de Dieu sur la terre. Que s'est-il passé? Un ange est venu, les lions n'ont rien fait. C'est la prière qui enclenche quelque chose. D'accord? Daniel a développé une coutume. J'appelle ça une coutume, mais il maintenait la discipline et la régularité de ses prières. Et je pense que ça l'a secouru au temps de grand stress. Moi, je me mets à la place de Daniel, et même si c'était un homme de foi, un prophète, à mon avis un grand prophète, je pense que quand on l'a mis dans la fosse aux lions, qu'il y avait les lions qui étaient morts la faim, je pense que, je sais pas, mais il a dû... Et je pense, si vous voulez mon avis, voilà comment j'interprète ce passage. Je me dis que souvent, on ne tient pas le coup du stress ou des difficultés, peut-être parce qu'on n'a pas assez prié. Je vous pose la question. J'ai un peu répondu pour moi-même. Je pense que les fois où j'ai succombé, c'est que j'ai lutté par mes propres forces, comme l'aurait fait un grand nombre de personnes à l'époque de Daniel, plutôt que de continuer à prier 3 fois par jour. À la fin, il a pu déclarer « J'ai été trouvé innocent ». Et puis, que se passe-t-il lorsque j'ouvre les fenêtres de Babylone? Eh bien, les décrets qui s'opposent à nous sont changés par des décrets qui glorifient le Seigneur. Regardez ce que dit le roi. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Vous imaginez un acte dans une chambre qui va avoir un impact sur la terre entière. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, dit-il, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Parce qu'on commence, vous imaginez, on commence à voir Dieu à travers Daniel. C'est un témoignage puissant. Car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Regardez ce qui est écrit. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et qu'est-il dit après? Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Les rois ont passé, les décrets se sont multipliés, mais Daniel a continué de prospérer. C'est quelque chose de fort qui nous est révélé ici dans la parole de Dieu. C'est quelque chose de puissant. Donc un homme, une femme, un enfant de Dieu qui prie, résiste, les rois passent, les lois passent, mais le royaume de Dieu existe encore. Que Dieu vous bénisse.